un enfant, j'ai tout donné. Je l'ai suivi sur le sentier. Jésus, je viens à tes côtés.
Bonsoir à ceux qui nous rejoignent sur Internet. Dieu vous bénisse, on a chanté, on a prié pour vous aussi. Et maintenant, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 7, verset 12. Nous continuons ce soir la série sur le sermon sur la montagne. Vous savez qu'on arrive bientôt au bout, puisque c'est au verset 28 que ça se termine. Je lis, « Ainsi donc, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. » C'est la loi et les prophètes. Amen. Bonsoir. Pourquoi Jésus dit ainsi donc? Ainsi. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que juste avant il avait dit « Si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison le Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Ainsi donc... » Tout ce que vous voulez, que je trouve que ça n'a rien à voir. Il n'est pas très bien placé, ce « ainsi ». Il est mieux placé dans Luc 6, 29, 31. On va lire Luc 6, 29, 31. Écoutez bien. À qui te frappe sur une joue, c'est toujours le sermon sur la montagne. À qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre. À qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta tunique. À quiconque te demande, donne, et à qui te prend ton bien, ne le réclame pas. Et comme vous voulez que les hommes agissent envers vous, agissez de même envers eux. C'était le même sermon, mais il y en a un qui a entendu d'une manière, et puis l'autre. Autrement, est-ce que ça vous trouble? Est-ce que ça vous trouble? Moi, je préfère la façon de Luc que la façon de Matthieu dans ce texte-là, parce que le « ainsi », difficilement, vous savez, le ainsi, ça veut dire qu'on prend ce qui est juste avant pour le lier à ce qui vient là. Eh bien, je trouve que ça ne va pas tellement. Enfin, c'est moi, hein, peut-être qu'un jour je changerai d'idée, on a le droit. Dans Luc, Jésus sur la montagne donne trois illustrations à propos du commandement d'aimer ses ennemis. Trois illustrations, on vient de les lire. Et puis, on sait bien que sans l'aide du Saint-Esprit, ce n'est pas possible, on ne peut pas y arriver. Et qu'en tant que disciple, on a besoin de prier, on a besoin de demander le secours du Saint-Esprit afin qu'il crée en nous le cœur capable de produire cette action, ces actions, ces commandements. Et puis après, il nous met devant nos responsabilités et puis il dit, voilà, maintenant, je vais simplifier la chose. Ce que tu veux que les autres te fassent, ben, fais-le leur d'abord. Et voilà. Maintenant, entre 551 et 419, avant Jésus-Christ, il y avait un homme qui s'appelait Confucius. C'était un philosophe chinois. Il a eu peu de chance de rencontrer les prophètes juifs. Hein. Et bien, il avait dit la même phrase, mais dans la forme négative. Il avait dit « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'ils vous fassent. » Ça veut dire la même chose, mais c'est dans la forme négative. Quand même, 500 ans avant Jésus-Christ. Et puis, si vous lisez le livre de Tobie 4.15, qui est un livre apocryphe, qu'on trouve dans cette Bible-là, eh bien, on trouve la même idée, encore là, on trouve la même idée. Ce que tu n'aimes pas, ne le fais à personne. Et 20 ans avant Jésus-Christ, il y avait un rabbin qui s'appelait Hillel, qui a dit à un bonhomme, il lui a dit, parce que ce bonhomme lui posait des questions, il lui disait, mais comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu, pour enseigne-moi la loi. Hein? Et alors, Hillel, le rabbin, lui a dit, ce que tu trouves horrible, ne le fais à personne. Voilà, il lui dit, voilà, tout ça c'est toute la loi. Et tout le reste n'est que commentaire. Vous vous rendez compte, ce rabbin, formidable. Formidable, il avait compris vraiment beaucoup de choses. Et vous savez, il y a beaucoup d'érudits qui disent que tout ce qu'on trouve dans le Sermon sur la montagne se trouve déjà dans le Talmud. Et que même le Talmud est plus complet encore que le Sermon sur la montagne. Et moi, je rajoute ma sauce en disant que c'est vrai qu'on trouve beaucoup de choses dans le Talmud, mais pour trouver une perle précieuse dans le Talmud, il faut quand même brasser beaucoup de cailloux. Alors que Jésus va directement à l'essentiel. Amen. Voilà, tout ça pour dire, voilà, cette phrase-là, c'est pas, Jésus ne l'a pas inventée, c'était quelque chose qui est dans le cœur. On sait ces choses-là, même si Jésus ne les dit pas, on sait qu'on ne va pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse à nous. C'est normal. Bon, c'est beau, c'est bien qu'il l'ait dit, parce que comme ça, quelqu'un l'a écrit, Matthieu l'a écrit, Luc l'a écrit, comme ça, ça reste, c'est bien. Et puis ceux qui n'auraient jamais pensé, ben voilà, ils y pensent parce qu'ils peuvent le lire. Ce que Jésus dit là, en fait, c'est le levier dont on doit se servir. C'est une exigence puissante, un levier donc puissant. C'est l'approche la plus absolue, on peut dire, de l'amour absolu. C'est du moins celui, c'est l'amour que l'être humain peut manifester. L'amour le plus absolu que l'être humain peut manifester. Souvent, on est soucieux davantage de ce qui pourrait être pour notre bien que le bien des autres. Si on y réfléchit, on aime quand même bien être bien traité par les autres, non, hein, c'est sûr. Et on sait tellement ce qui nous ferait du bien, on aimerait bien que les autres nous fassent, hein, on sait très bien ce qui nous édifie et ce qui nous détruit, on connaît. Alors, reconnaissant tout ça, ben on sait donc très très bien ce qu'il faut faire aux autres. On n'a même pas besoin de demander à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire aux autres. On sait très bien ce qu'il faut faire, on sait très bien ce qu'il ne faut pas faire. On peut le dire de la façon positive, comme Jésus, faites aux autres, et puis que la façon de l'autre qui disait, ne faites pas aux autres. D'accord. Donc Jésus nous invite à utiliser là notre imagination. Il ne nous dit pas d'être hyper spirituel et d'aller sur les genoux pour savoir ce qu'on doit faire aux autres. Il nous demande de nous servir de notre imagination. Notre imagination peut nous aider à nous mettre à la place des autres, à se rendre compte. Et là, notre imagination, elle devient notre moyen le meilleur pour savoir comment agir. Comment agir. Paul, il dit ça aussi dans Romains chapitre, on va le lire, Romains chapitre 13, verset 8. Je vous le lis. N'ayez aucune dette envers qui que ce soit, sinon celle de vous aimer les uns les autres. Celui qui aime son prochain a pleinement accompli la loi. Ça veut dire la même chose aussi. Ça veut dire la même chose. Paul est tout à fait en accord. Jésus, donc, n'enseigne pas une religion, mais il touche à la vie sociale, il touche à la vie réelle, à la vie des vrais gens, comme on dit aujourd'hui. Et il fait intervenir des relations familiales, parce que c'est ce qui est le plus précieux dans nos vies. Et puis, maintenant que nous sommes nés de nouveau, il fait intervenir aussi la question de nos relations dans la famille divine, où Dieu est notre Père, et où les autres, où les disciples sont des frères et des sœurs. Il parle de tout ça. Mais ceux de la vie divine ne doivent pas oublier les autres. On ne doit pas oublier les autres et notre façon de nous comporter avec les autres. Ceux qui ne vivent pas comme nous, ceux qui ne pensent pas comme nous, ceux qui n'ont pas nos traditions, ceux qui n'ont pas nos coutumes, ceux qui pensent différemment. Et dans le chapitre 7, justement, de Matthieu, Jésus nous fait prendre vraiment conscience des relations fondamentales qu'on doit établir. C'est nous qui devons les établir avec les autres. Avec les autres croyants, des croyants qui ont des croyances légèrement différentes ou très différentes, et puis avec aussi ceux qui sont du dehors. Alors on établit ces relations depuis le centre, depuis Jésus qui est en nous. Tout à l'heure, Stéphane a choisi ce chant, « Jésus, tu es le centre de ma joie », c'est vrai, mais il n'est pas que le centre de notre joie, il est aussi le centre de notre inspiration, il est le centre de notre vouloir, le centre de notre faire, il est le centre de toutes choses. Et ça doit venir de notre centre, avec nos frères et sœurs dans la foi, ça doit sortir de notre centre, c'est-à-dire de Jésus qui est en nous. Et Jésus nous enseigne qu'on ne doit pas envisager d'autres relations que des relations qui sont constructives. On ne doit pas envisager d'autres relations que des relations qui sont pleines d'attention. Comment on peut faire autrement? On n'est plus dans la loi ni dans les prophètes. On n'est même pas avec Confucius. On est vraiment en dessous de tout. Maintenant, Jésus sait que nous avons à fréquenter des gens qui ne sont pas de cette fraternité, qui ne sont pas de la famille divine. Et là, il nous enseigne deux sortes d'attitudes. On doit prendre une certaine distance avec certaines personnes, avec ceux qui blasphèment, avec ceux qui insultent, qui outragent, qui accusent le Père, qui accusent aussi ses enfants. Hein, c'est la famille d'abord, c'est-à-dire que nous, on ne supporte pas. Donc, on se tient un peu à distance. Mais envers ceux du dehors, alors ça c'est ceux du dehors hein, qui blasphèment, qui font toutes ces choses, mais il y a des gens du dehors qui sont respectueux de notre foi, qui sont respectueux des choses de Dieu, même s'ils n'y croient pas. Ils sont respectueux, ils ont ils sont respectueux. Et avec eux, eh bien, le Seigneur nous dit de nous montrer doux, compréhensifs, généreux, attentifs et bien disposés. Donc vous voyez, il y a deux sortes de personnes, il y a ceux de la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu, il y a toutes sortes de catégories. Et puis, dans ceux du dehors, il y a ceux qui ne sont pas respectueux, il y a ceux qui sont respectueux. Donc, Jésus nous enseigne comment vivre, le savoir-vivre. C'est le savoir-vivre selon le Père. Et c'est un enseignement important, c'est pratique, c'est des choses pratiques. Parce que Dieu est le Père de ses enfants, et les enfants de Dieu apprennent à se comporter selon la volonté du Père, et non pas selon la volonté du prince de ce monde. C'est-à-dire que il y a des très bonnes choses dans la psychologie, il y a des très bonnes choses, il y a des choses magnifiques et tout. Oui, même Confucius a dit des très bonnes, il a dit des très bonnes choses, Confucius. Mais nous devons nous occuper de ce que le Père, lui, pense, surtout et avant tout. Nous sommes de sa maison. Nous sommes de ceux de sa maison, en plus, qui vivons au 21e siècle. Ceux de sa maison qui vivent au 21e siècle, ceux qui vivent dans le temps du 4e sceau, ceux qui vivent donc avec un prophète majeur, ceux qui vivent en participant à la voix de l'archange, c'est ça que nous sommes. Et frères et sœurs, les gens de la maison de Dieu du 21e siècle ne se comportent pas comme les élus du temps de Moïse. Ah, bonsoir Philippe, je croyais que tu ne rentrais pas ce soir. On ne se comporte pas comme les élus du temps de Moïse, pourtant c'était des élus aussi. Et même, nous ne devons plus nous comporter comme des enfants de Dieu qui vivent dans les autres âges de l'Église. Pourquoi? Parce que nous autres, nous avons des actions divines à poser et elles ne sont pas les mêmes que celles qui ont été ordonnées à ceux, par exemple, du sixième âge de l'Église, d'Apocalypse 3-7. Dans cet âge-là, il y avait d'autres choses. La révélation était progressive. Et à leur époque, Dieu ne leur demandait pas autant qu'à nous. Cependant quand même, si les actes divins qu'on doit poser sont différents, la morale, elle est la même. La morale, elle est la même. Celle de Confucius, 500 ans avant Jésus-Christ, celle de Moïse, qui est encore plus vieille, celle du livre de Tobie, celle du rabbin Hillel, 20 ans avant Jésus-Christ, toutes ces lois sont bonnes, ce sont des bonnes lois morales pour notre bien, pour le bien de la société, et ces lois-là ne sont pas abolies et nous avons à les accomplir. Les lois que nous n'avons plus à accomplir, ce sont les lois sacrificielles. Jésus a donné sa vie sur la croix en sacrifice et ça, nous n'avons pas à le faire, c'est fait. Mais les autres lois, nous avons à les mettre en pratique. Maintenant, le sacrifice que nous avons à faire, c'est un sacrifice de louange, pas seulement de louange blablabla, mais de louange en action, c'est-à-dire des actes d'obéissance aux ordonnances qui ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'au temps de Moïse, au temps d'Ézéchiel, Daniel, Osée, Michée, et tous ceux que vous voulez, et même pas, c'est même pas la même chose, c'est pas les mêmes ordonnances qu'au temps d'Irénée même, ou de Wesley, ou même de Branham. C'est fini maintenant, c'est une autre époque, c'est une autre période. Ça ne veut pas dire qu'on doit désobéir aux choses auxquelles ils devaient obéir, on doit obéir aux choses auxquelles ils devaient obéir au moment où ils l'ont reçu. Par exemple, je suis très luthérien quant au sujet de mon salut par la foi. mais je ne vis pas en 1500 et quelques. Dieu a révélé des nouvelles choses. Donc je suis très wesleyien aussi quant au sujet de la sanctification. Mais je ne peux pas me borner là, parce que la colonne de feu, elle avance. Et aujourd'hui, je ne peux pas me contenter d'être luthérien. Je ne peux pas me contenter non plus d'être wesleyien. Je ne peux pas me contenter non plus d'être branhamiste. Ce n'est pas possible. La colonne de feu a avancé aujourd'hui. Les actes ordonnanciels que nous posons sont plus grands. Et nous devons poser tous les autres actes. Que ce soit le salut par la foi, le baptême par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme ça se faisait par les apôtres, la sanctification et toutes ces choses-là. Toutes ces choses qui ont été restaurées, eh bien, nous devons les mettre en pratique plus ce que le Seigneur dit à notre époque, à notre temps. Et les ordonnances que nous posons aujourd'hui sont plus grandes. Il nous revient quelque chose qui n'a jamais été demandé au précédent. Il nous revient d'évangéliser le monde entier. Vous vous rendez compte? C'est notre charge. Il nous revient avant le retour de Jésus. Il nous revient de vider le mauvais côté du séjour des morts de tous les enfants de Dieu qui sont captifs à l'heure actuelle. Ça n'a jamais eu lieu. Ça s'est pratiqué jusqu'au IVe siècle. Et puis après, l'Église catholique naissante a interdit aux chrétiens de le faire. Et maintenant, Dieu a restauré cela dans son Église et c'est à nous que ça revient. Vous voyez que c'est quelque chose de plus grand que ce que Branham faisait, que ce que Wesley faisait, que ce que Luther faisait, que ce que Colomba faisait, de ce que Irénée faisait, de ce que Paul faisait. J'en ai oublié un dans la route. Mais c'est beaucoup plus grand aujourd'hui. Il nous revient des choses extraordinaires. Il nous revient aujourd'hui, à nous, l'Église du 21e siècle, à nous, l'épouse de Christ du 21e siècle, à nous, les élus, il nous revient de réveiller les folles et les sages. Ça, c'est du temps de Philadelphie, ça n'existait pas. Aucun chrétien n'était là pour le faire. Il n'avait pas ce mandat. C'est à nous que ça revient. Et pour pouvoir les réveiller, il faut d'abord être réveillé soi-même. D'accord? Alors, c'est pourquoi je vous encourage, mes frères et sœurs, consacrez-vous davantage. Vous avez beaucoup reçu, il vous sera beaucoup demandé. Il sera moins demandé à Luther. Il sera moins demandé à Branham même. Il sera moins demandé qu'à nous. Parce que nous avons reçu davantage, parce que Dieu révèle encore, parle encore, met sa parole en lumière. Alors, pensez-vous que nous devons révéler ces choses que Dieu nous a révélées? Oui, nous le devons. D'accord, nous le devons. Nous le devons à qui? Mais nous le devons à Jésus-Christ, parce qu'il est mort pour que ces choses soient accomplies. Pensez-vous que cela ira sans faire de vagues? Non, ça va faire des vagues, c'est sûr, ça a toujours fait des vagues. Ça a toujours fait des vagues. Aussitôt que Dieu révèle quelque chose dans son Église, ça fait une division. Ça fait des vagues. Mais ces vagues ne nous submergeront pas. Alors il faut y aller. Jetons les cailloux dans la mare. Semons la parole de Dieu. Disons la vérité. Parce que le Dieu avec qui nous sommes, il est avec nous. Il est avec nous pour nous soutenir de sa droite triomphante. Il ne nous abandonnera pas. Il ne nous lâchera pas. Et Jésus nous a ordonné juste de révéler ces choses, mais avec amour, avec gentillesse, avec tact. Alors, sachant qu'on sera giflé pour ça, qu'on sera souffleté pour cela, qu'on sera critiqué pour cela, il nous apprend comment agir et comment réagir. Et voilà pourquoi il y a tout ce sermon sur la montagne qui nous est adressé à nous, plus encore qu'à d'autres, mes frères et sœurs, plus encore qu'à d'autres. La loi morale, elle n'a pas changé. Noé l'a pratiquée pendant la construction de l'arche, tout en étant un prédicateur de justice. Est-ce que vous croyez que les gens se moquaient de lui seulement parce qu'il construisait une arche? Non, c'était surtout parce qu'il prêchait la justice, c'était ça. Ça les dérangeait terriblement. Alors, maintenant, on comprend peut-être un tout petit peu mieux le « ainsi donc » qu'on trouve dans Matthieu 7, 12. Ce « ainsi donc », je pense qu'ils auraient dû le traduire par, je vais demander à mon ami Manu, si tu m'écoutes Manu, envoie-moi vite un message. C'est Manu Pradey, Emmanuel Pradey, avec qui j'ai travaillé pendant 7 ans à Teen Challenge et qui est devenu un théologien. Alors dans le grec, l'hébreu, tout ça, les écrits intertestamentaires, il est le chef là-dedans. Donc Je pense, à mon avis, que le ainsi qu'on trouve dans Matthieu 7, 12, ça devrait plutôt dire faites ainsi. Que cela soit ainsi, ou amen. Amen. On pourrait dire que Jésus a dit que cela soit donc ainsi. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Vous voyez? Sinon, ce ainsi, il est mal placé. Et je préfère Luc à ce moment-là. Alors, faites-le pour eux. Et ensuite, il termine en disant, cela, c'est la loi et les prophètes. Mes frères et sœurs, il n'a pas caché que cette phrase-là n'était pas de lui. C'est la loi et les prophètes. Nous sommes passés, nous, par la porte qui est Jésus. En cela, nous sommes rentrés dans une autre dispensation, mais plus que cela, nous sommes rentrés dans la présence même de Dieu. Et passant par cette porte, à un moment donné, moi ça m'est arrivé le 1er juin 68, à 21h45, quand Raphaël a fait l'appel là, à Lausanne, à la Maison du Peuple, je suis passé par la porte. Ça, c'est une fois. Mais après, derrière cette porte, il y a un chemin. Et le chemin, des fois, il est long. Moi, ça fait 43 ans que je marche sur ce chemin. Et des fois, c'est un peu long. Je dis, Seigneur, tu n'aurais pas pu me reprendre tout de suite. Ça aurait été tellement mieux. Mais Jésus est ce chemin aussi. Et le problème, c'est qu'un chemin, il a deux bords. Un chemin, il a deux bords. Et sur les bords de chacun, sur les bords de ce chemin, d'un côté, vous avez un précipice qui conduit dans la chair. Et de l'autre côté, vous avez un précipice qui conduit dans le monde spirituel des ténèbres. C'est pourquoi Jésus nous dit d'être prudents. Certains marchent sur ce chemin, mais un petit peu trop à gauche. Je ne fais pas de politique, hein. On va dire qu'ils marchent un petit peu trop selon la chair. Qu'est-ce que c'est marcher selon la chair? Ben, c'est marcher encore en disant, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse cela, parce que si je ne fais pas ça, je vais être perdu. Et ça, c'est marcher selon la chair. Et puis, il y en a qui marchent un petit peu trop à droite, c'est-à-dire sous l'influence démoniaque, des esprits, n'est-ce pas, qui insultent, qui blasphèment, parce que quand on insulte un enfant de Dieu, c'est Dieu qu'on insulte, vous voyez. Donc nous devons marcher au milieu du chemin, c'est-à-dire le plus loin possible de la chair, d'un côté, et le plus loin possible du monde spirituel pervers de l'autre, au milieu du chemin, au milieu du chemin. Le chemin, il est étroit, alors il faut vraiment faire très attention de se tenir vraiment dans le milieu, dans l'équilibre. Dans l'équilibre. Au milieu du chemin, on risque moins de faire un faux pas que tout au bord. Hein, vous avez vu quand on roule au bord de la route, là aujourd'hui, il y a un bonhomme, vous savez, quand il y a des voitures parquées, normalement les voitures qui arrivent en face, elles doivent s'arrêter. Ben, ce n'est pas arrêté, ça m'a forcé à rouler vraiment dans le caniveau. Hein, sinon c'était l'accident. Ben, ce n'est pas agréable de rouler tout au bord. Vous êtes d'accord, hein? Ce n'est pas très agréable. Eh bien, même sur le chemin avec Jésus, quand on est trop d'un bord ou trop de l'autre bord, il faut être au milieu. Amen. Parce que sinon, il y a des risques. Au milieu du chemin. Qu'est-ce que c'est marcher au milieu du chemin? C'est faire le bien, non pas pour en recevoir quelque chose en retour, mais être au milieu du chemin, c'est prendre l'initiative du bien que Jésus veut que nous fassions sans compter que quelque chose va nous arriver en retour, même pas une bénédiction. Même pas une bénédiction. Alors soyez attentifs, mes frères et sœurs, à ce que Dieu vous dit aujourd'hui et faites ce pour quoi vous avez été fait, montrant que vous êtes attachés de cœur à votre maître. C'est très important. Votre maître, c'est le Père. Et je vous disais mercredi soir à la réunion, à la réunion de prière, je vous disais que Dieu, notre Père, nous donne le vouloir et le faire. Mais mes frères et sœurs, il y a des gens qui ont le diable pour père, la semence du serpent, ils sont du diable, c'est le diable qui les a semés, ils sont du diable, et ces gens-là du diable, c'est aussi leur père qui leur donne le vouloir et le faire. Ils parlent comme leur père, ils mentent comme leur père, ils accusent comme leur père, ils condamnent comme leur père, parce que leur père, c'est le diable qui leur donne aussi le vouloir et le faire. Et alors, ils veulent et ils font les choses que leur père leur... Jésus dit, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes du diable, votre père, vous ne pouvez même pas croire, vous ne pouvez même pas comprendre. Alors, frères et sœurs, faites la preuve de qui vous êtes. Serrez la parole de Jésus dans votre cœur afin de ne pas pécher contre lui. Amen. Amen. Notre Père, nous te prions ce soir dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui nous a montré le chemin, qui nous a montré comment vivre, qui nous a enseigné ces choses. Nous te prions de nous aider à vraiment vivre ces choses au plus près afin que ton nom soit glorifié dans nos vies. Merci d'avoir pardonné nos fautes. Merci d'avoir pardonné mes fautes. Merci Seigneur Jésus, parce que je peux croire aussi que les fautes des autres sont pardonnées et que cela me permet de pouvoir faire encore confiance. Sois béni Seigneur Jésus de me donner la sagesse pour avancer correctement et que nous puissions te glorifier ainsi jour.